France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
Sur une scène de crime, il n'y a pas que l'ADN qui aide les inspecteurs. Il y a les pierres et les cailloux aussi. Mais comment faire parler ces témoins grâce aux outils de la géoforensique ? Connaissez ma méthode, elle est fondée sur l'observation des riens, disait Sherlock Holmes. Cette phrase pourrait être la devise des sciences forensiques, cet ensemble de disciplines mobilisées lors des enquêtes judiciaires. La géologie en fait partie et les géosciences se révèlent particulièrement utiles pour élucider certaines affaires criminelles. De la boue fixée sur une semelle, des grains de sable ou même des microfossiles, quels sont ces témoins muets que la police scientifique parvient à faire parler et comment ces indices sédimentologiques peuvent-ils indiquer des coupables ? La géologie au service de l'enquête, crime et sédiments. Patrick de Wever, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géologue, professeur émérite au MNHN. Richard Marley, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes commissaire divisionnaire honoraire, chargé de cours de police scientifique au CNAM, et vous avez dirigé le service de l'identité judiciaire du 36 Quai des Orfèvres entre 1995 et 2005. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation ici en direct sur France Culture. Tous les deux, vous avez d'ailleurs publié récemment ce passionnant ouvrage qui s'appelle La géologie au service de l'enquête. C'est chez Belin. Et puis merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre fil podcast sur l'appli Radio France. Et merci à celles et ceux qui nous retrouvent sur Blue Sky. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur cette plateforme. On publie pour vous de nombreuses ressources. C'est sur notre compte @sciencesqfd. Alors, sur quel type d'affaires la géologie peut-elle apporter son éclairage ? Et que peut la géologie en matière d'investigation ? Quelles sont ses méthodes ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais pour commencer, comment la police est-elle devenue scientifique ? La question est posée à un pionnier, Edmond Locard, en 1961. C'est notre archive du jour.
Rentré au laboratoire, je me suis attelé à cette question. J'ai recherché tout ce que j'ai pu trouver. Et puis j'ai pris un parti héroïque, c'est de faire une sorte de tour du monde pour connaître les services d'identité des différents pays, y faire ou une visite ou même un stage et voir comment on faisait ailleurs. J'ai été naturellement à Paris chez Bertillon. Bertillon avait un inconvénient, c'est qu'il avait un caractère infernal. Je crois que je peux le dire sans blesser sa grande mémoire, car c'était un savant admirable. Mais il n'était vraiment pas très maniable. Je suis resté chez lui quelques semaines, j'ai appris beaucoup, je lui en ai gardé une profonde reconnaissance, puis j'ai été ensuite chez Raïs à Lausanne, où il y avait alors un laboratoire de photographie judiciaire. Et puis j'ai continué, j'ai été à Vienne, j'ai été à Berlin, j'ai été à Hanovre, où était l'école de police allemande, j'ai été à Rome, où était la Scuola di Polizia, où on formait les carabiniers. Et puis j'ai été à Barcelone, et finalement j'ai été à New York et à Chicago. Alors, ces pèlerinages accomplis, j'avais une vue d'ensemble sur ce qu'on avait fait ailleurs comme service d'identité judiciaire. Mais ce que je voulais faire, ce n'était pas un service d'identité. C'était un laboratoire de police, c'est-à-dire le lieu où on pratiquerait toutes les recherches d'épreuves indiciales et tous les moyens d'identifier les criminels par leurs traces.
Voilà un extrait de l'émission Tout s'explique sur France Inter en 2010. C'est la voix d'Edmond Locard, professeur de médecine légale. C'est lui qui crée le premier labo de police scientifique du monde. Richard Marley, lui, c'est un peu votre maître à penser.
J'ai deux maîtres à penser. Donc Edmond, il fait référence à mon illustre prédécesseur au caractère impossible, Alphonse Bertillon, qui est le père du concept d'identité judiciaire, et puis Edmond Locard, donc, qui est, comme il a dit, créateur du premier laboratoire de police scientifique, mais surtout celui qui énonce un principe fondamental en criminalistique ou en sciences forensiques, qui est le principe de l'échange. Je crois, à l'occasion de son action criminelle, un malfaiteur laisse des traces de son passage ou de son acte, et à l'inverse, il emporte sur son corps ou sur ses vêtements des éléments qui viennent de la scène de crime. Là, vous avez toutes les sciences forensiques, toute la criminalistique, en fait.
Nul individu ne peut séjourner en un point sans y laisser la marque de son passage. En effet, c'est ce principe qui est décrit dans son ouvrage « L'enquête criminelle et les méthodes scientifiques » paru en 1920. Votre écoute, vous aussi, Patrick de Wever, sur l'écoute de cette archive et de cette voix-là. Je voyais Richard Marley sourire à l'écoute de cette voix. Comment vous aussi, ça vous fait réagir d'écouter ce pionnier?
Mais comme tous les pionniers, aujourd'hui, ça a l'air un peu dépassé, mais on oublie que c'était ça qui était novateur. Moi, j'entendais surtout l'aspect un peu ancien de la manière de parler, etc. Mais bon, à l'époque, pourtant, on faisait déjà on utilisait déjà la géologie, même depuis le milieu du 19e siècle, on utilisait les microfossiles pour traiter des affaires judiciaires. Parce qu'il y a un Allemand, Ehrenberg, qui, à partir de microfossiles, avait réussi à trouver l'origine du vol, parce qu'on a retrouvé des restes de ces petits microfossiles. Parce que l'avantage des microfossiles, j'ai une tendance à parler beaucoup des microfossiles parce que j'ai passé ma vie là-dessus, à les étudier. Mais l'avantage des microfossiles, c'est qu'ils sont petits. Comme ils sont petits, on les voit pas. Comme on les voit pas, on a l'impression qu'ils n'existent pas. Et c'est eux qui sont justement les témoins très utilisés pour les enquêtes judiciaires.
Donc en effet, on se rend compte que les géosciences sont utilisées par la police criminelle très tôt, Richard Marley.
Oui, et puis une des idées de ce livre, en fait, c'est d'essayer de démontrer que voilà, l'ADN n'est pas la seule preuve, c'est pas la reine des preuves. Et c'est pour ça que Patrick comme moi, on aime bien ce concept de science forensique, c'est-à-dire toutes ces disciplines, toutes ces sciences dont on peut avoir besoin à l'occasion d'un procès, qu'il soit pénal, civil, voire même administratif. Et en fait, c'est vraiment ce qui nous a animés, essayer de remettre un tout petit peu l'église au milieu du village et dire voilà, la génétique n'est pas tout.
Patrick de Wever, la génétique n'est pas tout, il y a aussi la botanique et donc la géoforensique.
Oui, la forensique, c'est mettre sur le forum, ça vient de pour le forum, ainsi que c'est ce qui est caché. Donc on met en évidence ce qui est caché. Donc il y a la forensique, et initialement c'était surtout la biologie, mais ensuite il y a la géoforensique. Alors ce qui m'intéressait à traiter ce sujet, bon, comme toujours une affaire de police, enquête criminelle, ça intéresse toujours tout le monde. Mais surtout, généralement quand je dis que je suis géologue, les gens disent « Ah !» avec une espèce de respect et d'horreur. Parce qu'ils disent on n'y comprend rien. D'ailleurs, à quoi ça sert? J'ai déjà eu des questions, souvent, à quoi ça sert la géologie? Et là, j'ai dit, je vais montrer que même pour la police, c'est utilisable et utilisé.
Et on va voir comment, justement, la police utilise cette science-là et ses savoirs et ses outils. On vient d'évoquer ce principe fondamental et fondateur de la police scientifique, qui est le principe de l'échange. Second principe essentiel, Richard Marley, c'est le principe d'individualisation. En quoi consiste-t-il?
Alors, c'est un grand criminaliste qui s'appelait Paul Ehrenkurt, qui dit voilà, la criminalistique, c'est la science de l'individualisation. C'est pas de l'identification, c'est de l'individualisation. Le principe, c'est de dire voilà, on a une trace, il faut remonter jusqu'à sa source, et pour que l'exploitation de cette trace soit pertinente, il faut qu'il n'y ait qu'une seule source. C'est ça l'individualisation. Et en fait, c'est différent de l'identification. L'identification, ça serait classé dans un groupe, dans une classe. Et l'individualisation, c'est dire non, je remonte jusqu'à une source et elle est unique. C'est le principe des empreintes digitales et des traces digitales. C'est le principe de la génétique, etc., etc. C'est beaucoup plus compliqué, mais ça, Patrick en parlera beaucoup mieux que moi. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué avec la géologie.
Pourquoi c'est plus compliqué avec la géologie, Patrick de Wever?
Parce que on utilise donc, la géologie fait partie de la nature, on utilise des éléments naturels. Et les éléments naturels, ce qu'on trouve ici, on peut éventuellement le retrouver ailleurs. Donc c'est pas parce que c'est la même chose que ça vient automatiquement de cet endroit-là. Donc c'est pour ça que généralement il faut prendre plusieurs éléments. Et ainsi on a une convergence d'indices et ça permet pas toujours de dire c'est sûr, c'est pas forcément univoque, mais généralement devant un faisceau d'indices, les coupables ont tendance à se sentir perdus.
Il y a un des courants contemporains de la police scientifique, Richard Marley, c'est la traçologie dont on parle de plus en plus.
Ah oui, il y a même, comme je vous le disais, j'ai eu l'occasion avec Patrick là d'organiser des journées du crime et de la science, et en fait on a fait venir Olivier Ribaud, qui est l'ancien directeur de l'école des sciences criminelles de Lausanne, ce qui se fait de mieux, et en Europe, en fait, c'est probablement ce qui se fait de mieux en termes de police scientifique. Et en fait, il a écrit il y a quelque temps un livre qui s'appelle « De la police scientifique à la traçologie ». L'idée, en fait, c'est de dire, voilà, ce qui est fondamental en police scientifique, c'est la trace. Et toutes les traces.
Et tout fait trace.
et tout fait trace. Et après, donc, on en parle. Il y a des traces, évidemment, qui sont extrêmement intéressantes parce que, justement, elles permettent de remonter vite à une source unique. Les empreintes digitales, la génétique. Voilà, on remonte très vite à une source unique et puis, avec ces éléments-là, on peut construire des bases de données très facilement. Voilà, base fichier automatisé des empreintes digitales, fichier national automatisé des empreintes génétiques. Et en fait, la criminalistique, la police scientifique, c'est toujours de la comparaison. Et l'utilité des bases de données, en fait, c'est de pouvoir passer de la comparaison du 1 contre 1, j'ai une trace, j'ai un suspect, à la comparaison du 1 contre N, j'ai une trace et j'ai une base de données.
Là, l'importance des bases de données en criminalistique, on le comprend bien. Mais quelle est la place justement des géosciences dans ces bases de données pour améliorer l'efficacité des recherches, Patrick de Wever?
La géologie est multiple.
Je vous voyais réfléchir.
Oui, je me dis comment expliquer simplement. Mmh. Voilà. Par exemple, je vais prendre un exemple le plus simple. Actuellement, il y a une thèse qui est en train de se faire à l'école des mines par une personne, un capitaine de gendarmerie, qui étudie des sols. Alors les sols, c'est pas le sol de ce qu'on appelle le sol, ce qui est seulement par terre. Hein. Le sol en géologie, c'est la partie superficielle de la terre. C'est là où il y a autant de matière organique que d'éléments lithologiques. Et donc les sols varient énormément, même dans un champ, on peut avoir plusieurs types de sols. Donc c'est plus ou moins ferrugineux, c'est plus ou moins ceci ou cela, il y a plein d'éléments. Et donc elle fait une base de données là-dessus pour que justement, si un jour on trouve un sol, on puisse dire, non pas ça vient exactement de là, mais c'est un sol comme celui-là, donc on connaît les critères de formation, donc c'est fonction du sous-sol, donc on dit, ah, sans doute que le sous-sol est de tel type, fonction de la météo, donc on dit, c'est un milieu humide ou c'est un milieu sec, etc., etc. Donc on arrive à avoir un ensemble de critères, mais encore une fois, c'est pour dire, on n'est plus dans tous les sols, mais on va permettre, non pas d'individualiser, mais de catégoriser au moins.
Oui, parce qu'on peut se dire comme ça que rattacher un grain de sable à un lieu précis, c'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin.
Oui, bien sûr. Ben, je ne suis pas du tout d'accord.
Vous n'êtes pas d'accord parce qu'on non, fait, parce on a, que... on a tout un tas de méthodes oui, de géoformation oui, qui nous permet de
justement retracer. Pour vous, un caillou, c'est un caillou. Mais pour moi, un caillou, ce n'est pas un caillou. Pour moi, un caillou, c'est un granit ou c'est un calcaire, ou etc. Et puis, si je dis calcaire, c'est un calcaire olitique de formé il y a 85 millions d'années. Et déjà là, ça sépare. Il n'y a plus que quelques endroits en France comme cela. Donc, vous voyez, en fait, j'aime bien comparer le caillou, pour monsieur tout le monde, c'est le caillou, à un livre de chinois. Pour moi, je ne sais pas vous, mais pour moi, quand j'ai un livre de chinois, ma foi... Je vois quelque chose, c'est de la cellulose avec des vermicules dessus. Et je peux l'utiliser pour allumer le feu ou bloquer un meuble, mais c'est tout. Et pourtant, si je savais lire le chinois, ben peut-être que je découvrirais une merveilleuse poésie. Eh bien, le géologue est celui qui sait lire la poésie chinoise, la poésie que nous racontent les cailloux.
On va voir comment vous arrivez à lire cette poésie. On va parler justement de ces matières premières, de ces indices. Mais déjà, quelles sont les méthodes de la géoforensique? Ce sont tous les outils et les disciplines des sciences de la Terre, Patrick de Wever?
Oui, des sciences de la Terre et pas que des sciences de la Terre. Parce que toutes les sciences, j'ai déjà dit que c'était la nature, mais toutes les sciences, normalement, pour étudier la nature, on doit utiliser toutes les sciences. Alors, comme on ne peut pas être spécialiste en tout, on restreint son domaine d'activité, d'intérêt, et donc on est géologue. Mais on peut être, en tant que géologue, moi je suis paléontologue. Donc, étant paléontologue, on fait de la géologie et on fait de la biologie. Et on fait aussi de la géochimie. Et on fait aussi, on utilise des outils qui relèvent de la physique, etc. Donc, vous voyez, en fait, c'est toutes les sciences sont utiles à la police scientifique, on l'a déjà dit, mais toute discipline, même si on dit que la géologie, on utilise de la chimie, de la physique, de la biologie, etc. etc.
Richard Marley, sur justement l'importance et cette vitalité de cette transversalité des disciplines en police scientifique.
Ah mais c'est ça qui est formidable. Je sais que j'ai passé 10 ans comme chef de l'identité judiciaire, et c'était 10 ans de bonheur, parce qu'en fait, ça bouge tout le temps, ça évolue sans cesse, ça permet des rencontres entre tous ces gens qui sont des experts, chacun en leur matière. En fait, lorsqu'on arrive à les faire travailler ensemble, à échanger, bon, on atteint l'objectif.
Alors, quelles sont vos matières premières? Quels sont ces témoins de pierre que la police scientifique parvient à faire craquer? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Trioux.
En
En direct sur France Culture, avec Patrick de Wever et Richard Marlet, nous parlons de géoforensique, quand les sciences géologiques partent à la poursuite du crime, quand les pierres témoignent. Parce qu'aujourd'hui, dans les enquêtes judiciaires, l'ADN semble être l'indice universel qui résout tous les problèmes, mais ce n'est pas la seule technique utilisée par la police. Tous les champs scientifiques sont mis à contribution, et c'est le cas des géosciences. Patrick de Wever, vous êtes venu, vous avez disposé sur ce bureau de studio. Ce sont quoi, des pièces à conviction? Je vois, moi, de mes yeux de novice, je vois un caillou, mais c'est plus compliqué que ça.
Et pour moi, ce caillou, c'est une diatomite. Ça veut dire que c'est un caillou constitué de diatomées. Les diatomées, ce sont des petites algues, toutes petites, et c'est assez fragile. Mais ça, c'est un caillou qui est fait de silice. La silice, c'est plus dur que le calcaire. Et ce caillou, c'est fait d'algues microscopiques qu'on trouve, donc qui facilement se transforment en poussière, comme vous voyez là. Mmh. Et ces poussières-là, vous y touchez, vous allez en avoir derrière votre ongle jusque ce soir. Mais ça ne sert pas qu'à ça. Par exemple, si je me lave les dents avec une brosse à dents, eh bien, j'utilise une gomme. Et dedans, il y a de la diatomite, parce que c'est siliceux. Imaginez que si c'était plus gros, vous vous laviez les dents avec des grains de sable. Voyez l'effet? Donc comme c'est siliceux, ça érode. Mais alors, ce sont les petites algues, quand j'ai dit ça, mais elles sont toutes les mêmes, les petites algues? Non, ils ont des formes très, très variées. Voilà, je vous en montre quelques-unes. Ça peut être triangulaire, ça peut être allongé, etc.
On peut les décrire, ces formes, parce que c'est assez beau vu d'ici. Là, moi, ce que je vois, c'est une sorte de structure triangulaire, assez...
Voilà, ces structures-là, en général, sont un peu comme des boîtes de camembert. Celle-ci, elle est triangulaire, mais souvent, c'est rond. Mais surtout, elles s'emboîtent comme deux petits couvercles. Et puis, vous voyez qu'il y a des dessins, il y a des structures un peu complexes. Mais cet ensemble-là, qui est ici sur la représentation que j'ai, fait 10 cm, ça fait 0,1 mm. Donc, c'est tout petit. Et vous voyez aussi qu'il y a plein de petits trous. Donc, ce sont des petits pores. Et un caillou tel que celui-ci, qui est fait de l'accumulation de ces organismes-là, c'est donc une roche poreuse. C'est une roche poreuse. On peut identifier les constituants. Et comme tous les fossiles, ça évolue au cours du temps. Donc, avec ce caillou-là, si je regarde, je vais vous dire, c'est du Miocène. Mon Dieu. Et alors, c'est-à-dire que c'est entre 5 et 7 millions d'années. Et on ne trouve pas du Miocène partout. Donc, voilà, hop, ça permet de localiser. Et ensuite, selon les endroits, il y a tel type d'organisme. On a des canards dans les endroits humides et on a d'autres bestiaux dans des endroits très secs. Et bien, ces petits organismes-là, même s'ils vivent tous dans l'eau, ils, selon l'endroit, si c'est très profond ou pas profond, ce sont des organismes différents. Donc, différents deux fois. Dans le temps, je vais dire verticalement, et selon le lieu, horizontalement. Donc, avec ces deux éléments-là, déjà, ça permet de circonscrire assez précisément les organismes. Alors, ça peut être utilisé aussi, ça. C'est intéressant, la diatomite, parce que si vous utilisez, par exemple, un bâton de dynamite, eh bien, si on va retrouver la poussière, mais c'est de la diatomite. Parce que la dynamite, vous avez tous vu le film Le salaire de la peur, Yves Montand et compagnie, ils doivent partir avec un camion, mais s'il y a des gros chocs, boum. Eh bien, le génie de Monsieur Nobel, c'était de cette matière explosive, il l'a mise dans une roche poreuse, telle que la diatomite. Donc, un bâton de dynamite, c'est de la diatomite avec de la nitroglycérine. Donc, vous voyez, même si il y a une explosion à la dynamite, on retrouve des éléments de diatomite, et à partir de là, on peut dire quel type de diatomite, qui utilise ce type de diatomite dans le monde, etc. Donc, ça permet déjà de circonscrire, par exemple, de remonter à la source du vendeur.
Richard Marlet, on a des exemples comme ça, de cas, des affaires, où on a eu affaire à de la diatomite, justement?
Vous avez une affaire terrible, dont on reparle ces derniers jours, en fait. C'est l'affaire Grégory. Et en fait, on se pose encore la question, puisqu'en fait, l'autopsie a été pas très très bien faite. La question numéro un, c'était, est-ce que Grégory s'est noyé dans la Vologne, ou est-ce qu'en fait, il a pas été noyé dans la baignoire? Ou est-ce qu'en fait, il s'est pas noyé dans la baignoire par un accident, quelque chose comme ça? Et en fait, la présence ou l'absence de diatomée dans le corps aurait apporté, exactement ce que vient de dire Patrick, des éléments fondamentaux.
On a dans ces éléments fondamentaux, on
oui,
a quand même...
Pardon, mais ce que veut dire Richard, c'est que si c'est dans la rivière, il a, voilà. Si c'est noyé, oui. Il a avalé des diatomées. Mais si c'était dans sa baignoire, il n'a pas de diatomée.
Oui, en effet, la scène de crime n'est pas la même. Et en effet, on parlait de l'important justement de circonscrire un lieu, et ce type d'analyse permet justement de faire ce type de conclusion. Alors là, on parle de diatomite, mais vos matières premières sont très très larges, parce que c'est immense le monde des cailloux, le monde des pierres, Patrick de Wever.
Oui, c'est beau comme la diversité de la nature, c'est très riche, parce que là on parle de diatomite, parce que honnêtement, vous m'avez demandé de venir avec un caillou de diatomite, je suis obéissant. Mais non, mais ça permet. Il y a beaucoup d'affaires qui ont été traitées avec la diatomite. Hein. Il y a des, oui. Par exemple, il y a une dame a été enlevée et on a retrouvé les coupables. Enfin, Richard serait sans doute furieux quand je dis ça. Des suspects. On a des suspects, voilà. Et on essaie de savoir quels sont les critères qui permettent de les incriminer. Et on a trouvé de la poussière de diatomée sur leurs chaussures. Deux types de diatomée. Or, ça c'est en Californie. En Californie, il y a des endroits où il y a beaucoup de diatomite. Roches poreuses, d'ailleurs, ce sont les roches du pétrole de Californie. C'est dans les diatomites. Et on a trouvé un autre type de diatomite d'eau douce. Et ces affleurements, donc les endroits où on trouve ces diatomites, ce ne sont pas les mêmes. Il n'y a qu'un seul endroit où on trouve ces deux types de diatomées mélangés. C'est dans une carrière de diatomites pétrolifères. Et il y a eu un orage, et de l'eau a dégouliné de la colline, et le torrent est rentré dans la carrière. Et donc dans cette carrière, et cette eau qui a dégouliné avec de la diatomée d'eau douce. Et dans cette carrière, c'est le seul endroit, parce que c'est accidentel, où il y a ces deux types de diatomées. Et on a retrouvé sur les chaussures ces deux types de diatomées. Or, ces messieurs disaient, on ne sait pas où c'est, on n'y est jamais allé. Avec les chaussures, encore une fois, ce n'est pas absolument univoque. Mais quand même, on dit, écoutez, c'est le seul endroit en toute la Californie où il y a ces deux, vous avez ça sur les chaussures, vous y êtes allé.
Alors comment continuer à faire parler les pierres? Je vous propose une lecture, un extrait de votre ouvrage « La géologie au service de l'enquête ». Affaire numéro 12. De petits témoins discrets accusent le malin tireur. Jennifer McCrady, épouse du soldat de l'État d'Ohio, Jackie McCrady, disparaît un jour de leur maison à Belpre. Un citoyen local signale l'avoir vue, le jour de sa disparition, dans une voiture de police conduite par quelqu'un ressemblant à Jackie, dans un endroit assez éloigné de la ville où il vivait. Les enquêteurs accordent d'abord peu d'attention à ce témoignage, mais quand toutes les autres pistes se révèlent vaines, ils cherchent à l'endroit signalé et remarquent un petit monticule de terre récemment remué. En le fouillant, ils tombent sur le corps de la disparue. Elle a été tuée d'un coup de feu, tiré par un revolver de calibre 357 Magnum, puis enterrée avec la literie de sa maison. Son mari devient alors le suspect numéro 1, d'autant que la police trouve une arme du même calibre à leur domicile. Il est cependant impossible d'assurer que cette arme a été utilisée pour le crime, car les rayures dans le canon ont été limées, empêchant la comparaison avec les traces de la balle. Devant cette impasse, l'un des investigateurs se souvient alors qu'il a vu de la terre sur une des serviettes chez le suspect. La terre est confiée à Richard Bisbing, de la police scientifique, légiste et patron d'une entreprise spécialiste. Il étudie les deux terres, celle qui provient de la tombe et celle qui entoure la demeure du suspect pour les comparer. Il découvre que les terres de la tombe et de la serviette sont identiques en tout point, couleur, granulométrie, minéralogie, mais qu'elles diffèrent nettement de celles collectées autour de la maison du suspect. Ce constat amène le jury à considérer McCrady coupable du meurtre de sa femme. Il est condamné en 1997 d'une peine d'emprisonnement allant de 15 ans à perpétuité. Altérer le canon de son arme a certes bien ralenti l'enquête, mais les techniques géologiques l'ont pointé d'un doigt accusateur. Richard Marley, en vous lisant, puis depuis le début de cette émission, je me dis que tout ce qu'on se raconte là, c'est du pain béni pour tout auteur de polar, mais aussi pour tout malfaiteur, pour tout criminel.
Oui, alors ça, c'est souvent les remarques qu'on nous fait quand, lorsqu'on écrit comme ça des choses sur la police scientifique. On dit, vous donnez trop de clés aux malfaiteurs. Mais c'est vrai depuis le 19e siècle, en fait. Voilà, depuis les écrits de Locard, de Bertillon, de Reiss, enfin, etc., etc. Il y a des informations. Et en fait, ça n'a ni encouragé, ni freiné les malfaiteurs. Voilà. Et après, maintenant, alors, évidemment, évidemment, on est passé, on a des instruments de connaissance qui sont nettement supérieurs à ceux qu'on pouvait avoir au 19e siècle. Vous trouvez tout sur Internet. Vous trouvez tout, en fait. Donc, en fait, c'est pas les quelques pages que j'aurais pu écrire qui auront donné des conseils.
Loin de moi, l'accusation de... Mais en fait, le fait que ça puisse se retourner parfois peut-être contre la police scientifique, le fait que ces analyses et ces techniques soient connues désormais.
Je suis d'accord et je vais dire quelque chose qui va un peu à l'inverse de ce que dit Richard, mais c'est pas tout à fait à l'inverse. C'est Aldo Moro avait été enlevé il y a quelques années, dans les années, par les Brigades Rouges, etc.
Je pensais exactement à cette affaire-là, en effet.
Ah, voilà. Et bon, ils l'ont cherché, ils ne l'ont pas trouvé, mais après, ils l'ont trouvé quand même dans Rome, à l'arrière d'une 4L, enveloppé dans des couvertures avec beaucoup de sable. Donc, ils n'ont pas pu sauver Aldo Moro, mais ils ont dit, on va essayer d'attraper les Brigades Rouges. Et il y a du sable dans la couverture. D'où vient le sable? Donc ils ont cherché à identifier le sable, et pour chercher à l'identifier sans éveiller l'attention des Brigades Rouges. Donc ils allaient, c'était au nord-ouest de Rome. Donc c'était des gens de la police, allaient là pour pas être vus, ils y allaient en famille. Ils faisaient des petits châteaux de sable, et le papa prenait des échantillons discrètement, etc. Donc vraiment, ils ont mis les moyens, ils ont fait ça avec plusieurs personnes, divers endroits. Et ils n'ont pas réussi à trouver les Brigades Rouges. Mais quand, plus tard, ils ont réussi à trouver les Brigades Rouges, ils ont dit, mais vous êtes dans le sud de Rome, pourquoi on a trouvé du sable du nord-ouest de Rome dans les couvertures? Et là, ils avaient dit exactement ça. Ils ont dit, on l'a fait exprès pour vous lancer sur une fausse piste. Donc, vous voyez, mais bon...
Oui. C'est ça, l'idée de brouiller les pistes.
Voilà.
Mais dans l'extrait que vous avez, enfin l'extrait du livre de Patrick en fait que vous avez lu en fait, on voit bien il y a une tentative de faire échouer les investigations, notamment en abîmant les rayures du canon du revolver. Bon, donc ça veut dire que la personne qui est un policier dans mes souvenirs, donc sait bien ce que c'est que la balistique et sait bien qu'on peut identifier une arme à feu. Notamment parce que c'est une arme à canon rayé, qu'en fait elle laisse des marques qui sont particulièrement individualisantes. Donc en fait, évidemment, il détruit ce type de preuve, mais voilà, il est policier, il connaît deux, trois petites choses en termes de balistique, mais il n'est pas géologue.
Ce que Richard essaie de nous dire, c'est que les policiers, ce sont quand même des sacrés malins.
Oh, je te remercie, mais c'est pas vraiment le but premier.
Patrick de Wever, qu'est-ce qu'un grain de sable peut nous apprendre? Que peut un grain de sable? Quelles sont les informations qu'il contient finalement?
Alors d'abord, la question est immense, vous ne vous en rendez pas compte, parce que ce qu'on appelle sable, c'est une granulométrie. En français, ça veut dire c'est une taille de grain. Donc ça peut être n'importe quel minéral, ça peut être n'importe quelle forme, et n'importe quel minéral, ça veut dire n'importe quelle composition chimique ou n'importe quelle structure cristalline. Mais prenons le quartz, hein, c'est ce qui est fréquent sur nos plages. Si vous regardez le grain de sable, je ne sais pas si vous avez déjà bricolé un peu, enfin moi quand j'étais jeune, on me disait, gamin, si tu veux faire du béton, prends du sable de Loire et pas du sable de la plage. Je disais pourquoi, on me dit parce qu'il y en a un qui est bon, et le sable de Loire avec ça ton béton va tenir, le sable de plage ça va pas tenir. Je savais pas pourquoi, et en faisant des études après de géologie, j'ai appris que le sable de la Loire, il vient donc des massifs du massif central essentiellement. Donc il a été enlevé des blocs de granit par exemple, et puis il est transporté dans la rivière, donc il s'abîme un peu mais il reste très anguleux. Alors que le sable de plage, lui, il a eu le même parcours, plus il est arrivé sur la plage, et il a été roulé, et c'est dans l'eau. Donc les chocs qu'il a eus, c'était quand même pas des chocs très violents. Si bien que ça donne des grains ronds, ou arrondis, et luisants. Alors que le même sable dans le désert, ça donne des grains ronds aussi, parce que les grains de sable ont été roulés, mais les chocs sont un peu plus forts, donc ça donne des grains qui sont émoussés. Et mat, ils sont pas luisants. Donc, vous voyez, rien qu'un grain de sable, on peut dire, ça vient d'une rivière, ou ça vient d'une plage, ou ça vient d'un désert.
C'est ça, c'est que pour résumer, la taille des grains permet de les classer, la couleur peut aider à déterminer leur origine, et la forme peut aider à remonter leur histoire et donc leur provenance. En analysant ces grains, on peut ainsi déterminer d'où ils proviennent, et en tout cas, ça permet de circonscrire un endroit ou une région.
Ça va même plus loin. Sur le grain de sable, si vous prenez un grain de sable, et ça c'était le Ribot qui avait fait ça, le grain de sable enregistre plusieurs histoires. C'est quasi un palimpseste.
Un palimpseste. On continue de découvrir ces histoires-là et on va se plonger également sur ces microfossiles, ces roches sédimentaires qui peuvent parfois faire tomber des criminels. On poursuit nos enquêtes. Dead Bodies en direct sur France Culture, car nous parlons de police scientifique, ou plus exactement de géoforensique, quand la géologie est au service de l'enquête. On en parle avec Patrick de Wever, géologue, professeur émérite au MNHN, et Richard Marley, commissaire divisionnaire honoraire chargé de cours de police scientifique au CNAM. Alors, Patrick de Wever, quelles sont les disciplines concernées par la géoforensique? On a ce qu'on appelle la pétrologie sédimentaire et la pétrographie. Quelle est la différence?
La pétrographie, pétro, pierre, graphie, décrire. On décrit les pierres. Pétrologie, logos, on parle des pierres. C'est-à-dire que la pétrographie est une partie de la pétrologie. L'un est descriptif et l'autre, on cherche à mieux comprendre les processus de formation et d'évolution. Donc, pour la police, ce qui nous intéresse surtout, c'est la pétrographie. On dit quel type de pierre on a. Parce qu'en fonction des minéraux qui sont dedans, on peut en connaître l'origine, on peut en connaître les effets secondaires, etc. Parce que, par exemple, en pétrographie, si on voit dans un sable des petits grains bleus d'azurite ou des petits grains verts, d'olivinote, etc., on sait que la roche initiale contenait ces minéraux. Et par exemple, je parlais des grains verts comme l'olivine, ben ça, on sait qu'il faut chercher plutôt dans des roches de type basalte, dans l'origine. Donc, vous voyez, donc pétrographie. Et alors, ben aussi, pour monsieur tout le monde, un caillou étant un caillou, il a des grains de couleur, c'est plus ou moins sombre, c'est plus ou moins clair. Mais nous, on dit pas c'est plus ou moins clair, on dit il y a, je sais pas, 25% de mica, autant de pourcents de quartz, etc. Et ça nous donne déjà un milieu de formation, mais surtout, ça nous circonscrit, encore une fois, il y a tellement de faisceaux d'informations que ça permet de localiser bien le type de caillou. Et c'est ce faisant que, à un moment, Des gens se promenaient, ils avaient vu un caillou sur un bord de route, et ils ont dit, tiens, ce caillou-là, il n'était pas là avant. Et ils se sont arrêtés, ils ont pris un petit morceau, et ils l'ont fait analyser, et ils l'ont montré à des collègues qui s'y connaissaient un petit peu en géologie, et ce type, il a dit, c'est bizarre, ce caillou, il ne vient pas de la région. Donc ils ont dit, donc pourquoi? Alors c'était un caillou quand même, c'était un gros bloc. Hein. Donc ils sont, après, futés, la police, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils se sont dit, c'est peut-être un signal, parce que c'est dit, il y avait un trafic d'armes qui était fait. Et c'était peut-être pour dire, là, c'est clair, tu peux y aller, ou là, l'endroit est prêt, tout est prévu. Donc, ils ont surveillé ce type de caillou, et puis ils ont retrouvé comme ça les coupables. Mais c'est parce que, vous voyez, c'est la pétrographie qui a dit, c'est pas un caillou d'ici.
Richard Marley, on a d'autres exemples comme ça de cas concrets d'analyse pétrographique qui débouchent sur des enquêtes qui sont résolues.
Je sais pas, faut se tourner vers Patrick. C'est, le géologue, c'est lui.
Parce que là, en effet, on a cette affaire.
Oui, parce que la pétrographie, donc il y a la description, mais dans la description, le poids, par exemple. Alors, par exemple, une fois sur un port, il décharge des grosses dalles de cailloux, et il y en a une dalle qui tombe. Et un caillou qui tombe, ça, quand il casse, il fait de la poussière. Mais là, ils disent, c'est quand même, il y a beaucoup de poussière. Donc, ils sont allés regarder ce que c'était que cette poussière. Et cette poussière, c'était de la blanche. Donc, ils se sont dit, tiens, comment se fait-il qu'il... Alors, ils ont regardé la pierre de plus près. Ils se sont aperçus, en fait, que la pierre a été percée de multiples fois, avec des petits trous de diamètre de 1 cm. Mais sur 5 mètres de profondeur ou 2 mètres de profondeur, ça commence à faire du volume, surtout qu'il y a beaucoup de trous. Et ils ont dit, on va essayer de regarder avec les rayons X, quelles sont les pierres? Est-ce que toutes les pierres ont ces trous ou pas? Ils ne pouvaient pas tout bloquer. Ils ont regardé avec les rayons X, mais la pierre était suffisamment dense. Il y a beaucoup de minéraux qui font obstacle au passage des rayons X. Donc, ils n'ont rien vu. Ils se sont dit, mais s'il y a des trous, de la blanche, c'est quand même moins dense que ce type de caillou. Donc, c'est tout simplement le pesant. Ils ont pesé toutes les dalles et ils ont vu que certaines étaient plus légères. Et celles-là, ils ont vu qu'il y avait des trous. Et ce qui les a intrigués, c'est qu'après, ils se sont aperçus aussi qu'il y avait des marques sur les pierres qui avaient été trouées, donc comme repère, et ils ont vu des restes avec les mêmes marques, donc ils se sont dit, on s'est déjà fait avoir, ça fait longtemps que ce... Vous voyez, là, c'est le poids.
Alors on continue de sonder les pierres avec le reportage du jour. Alors pour résoudre une enquête, il faut parfois aller chercher une vérité là où elle a été ensevelie. Et quand ça arrive, les outils géologiques qui permettent de sonder ce qu'il y a sous nos pieds deviennent très utiles. On continue de fouiller cette question avec vous, Loïc Dutoit. Bonjour.
Bonjour, Natacha.
Vous êtes allé à la rencontre de Michel Dabas, qui est directeur de recherche CNRS, éco-directeur du laboratoire d'archéologie de l'École normale supérieure de Paris. Il utilise notamment ses géoradars pour détecter des sites archéologiques.
Oui, et quand je l'ai rejoint, Michel Dabas était justement en train de faire des tests dans la cour de l'ENS pour calibrer sa machine avant de partir en mission. Ce géoradar, il faut l'imaginer comme une tondeuse avec un écran de contrôle sur le guidon. Il permet de faire des cartes du sol, un peu comme les chauves-souris. Vous savez, elles construisent des images de leur environnement grâce à l'écholocalisation, c'est-à-dire en écoutant les échos des ondes sonores qu'elles envoient. Eh bien, le géoradar fait pareil, mais dans le sol et avec des ondes électromagnétiques basse fréquence. Avec Michel Dabas, nous avons juste vérifié que la machine détectait bien toute la tuyauterie sous la cour de l'ENS. Mais sur le terrain, dans le cas d'enquêtes sensibles, les géoradars permettent parfois de révéler des secrets minutieusement enfouis.
Alors là, je peux faire maintenant la mesure. Alors je vais déjà enlever le frein sur la machine.
C'est comme une poussette.
Voilà, c'est comme une poussette. On se déplace. Voilà, voilà. Oula. Là, il y a vraiment un gros tuyau ici qui passe à cette profondeur. Ça, c'est la signature d'un tuyau. C'est des phases de l'onde. On passe du positif à négatif. Bon, ça, c'est classique pour une onde radar. Et puis surtout, elle a une forme d'hyperbole. C'est une diffraction, en fait, sur un point. Et là, on fait stop, acquisition. Et voilà.
Est-ce que vous pourriez décrire un petit peu qu'est-ce que ça permet de voir dans le sol et jusqu'à quelle profondeur? L'idée, c'est vraiment de faire des cartographies en 3D de ce qu'il y a sous nos pieds.
Tout à fait. Et malheureusement, ce qui est sous nos pieds est extrêmement compliqué. Typiquement, le radar est utilisé pour la détection des réseaux. Tous les tuyaux, eau, gaz, électricité qu'on a dans toutes nos villes modernes. Et avant de faire une fouille, on aime bien savoir où passe le réseau. Donc, c'est ce que vous voyez dans toutes les villes modernes où il y a les couleurs qui sont taguées au sol. C'est généralement des radars simples qui sont passés avant. Et la personne en charge de la détection du réseau va donner un coup de bombe de peinture à l'endroit où est le réseau pour qu'après, les pelles mécaniques se prennent pas les pieds dedans. Dans le cas du gaz, c'est plus qu'important. Voilà, ça, c'est la première type de détection. La deuxième chose qui est très importante pour le radar, c'est la détection des vides. Toute cavité est aussi très très bien détectée. Et après, on arrive sur des choses un peu plus compliquées, et malheureusement, c'est ce qu'on trouve le plus en archéologie, c'est-à-dire des zones qui ont été probablement déstructurées. Un trou de poteau, par exemple, un ancien trou de poteau où une terre différente a été mise, où la densité de la terre n'est pas exactement la même, on pourra peut-être le voir. Il est certain que remonter à la forme même de l'objet est assez complexe, parce que qu'est-ce que c'est qu'une carte, en fait, radar? C'est une carte de réflectivité, c'est-à-dire c'est avec quelle force l'onde électromagnétique qu'on a émise dans le sol revient à la surface.
Les ondes qu'on envoie dans le sol, ce sont des ondes radio, si je ne dis pas
de bêtises. C'est des ondes même un petit peu plus loin, dans ce qu'on appelle les spectres, parce que donc dans les radios, on est vers les kilos, les mégas, etc. Là, on est vraiment plutôt dans les zones hautes, hein, FM, etc. Typiquement, on est entre 200 MHz et 800 MHz, c'est-à-dire les ondes qui sont utilisées par nos téléphones portables.
La manière dont fonctionne cette machine qu'on a sous les yeux, c'est justement qu'elle envoie donc ces ondes dans le sol et qu'elle elle est capable de savoir combien de ces ondes vont revenir et en combien de temps ces ondes reviennent,
voilà,
ce qui permet de savoir qu'est-ce que ces ondes ont rencontré sur leur trajet.
Tout à fait. Il y a les deux paramètres. Vous avez tout à fait raison. Le premier, c'est le temps. Donc c'est des temps extrêmement courts, hein. On est en nanosecondes, hein, 10 puissance moins 9 secondes, parce que la vitesse, c'est quasiment la vitesse de la lumière à un facteur près. Donc ce temps permet de connaître la profondeur de la cible. Et effectivement, le deuxième paramètre important, c'est la réflectivité, c'est-à-dire combien d'énergie va revenir vers la surface. Si vous mettez une plaque métallique à 1 mètre de profondeur, quasiment toute l'énergie va revenir à la surface. Et on ne pourra rien voir d'ailleurs de ce qui est probablement situé sous cette plaque métallique. C'est comme un miroir. Un miroir, on ne voit pas ce qui est derrière le miroir. Ben pour nous, ce n'est pas des miroirs, on n'est pas en optique, mais une plaque métallique, c'est exactement la même chose pour nous.
Ces géoradars, ils sont utilisés aussi dans le cadre de sciences qu'on appelle forensiques, alors que ce soit pour le cadre d'affaires judiciaires ou légales, mais aussi pour le cadre d'enquêtes historiques avec l'archéologie. Comment c'est venu cette idée et pourquoi c'est un outil qui est si utile dans le cadre de ces sciences qui servent l'enquête ?
Alors, le radar est utilisé effectivement soit pour des détections on va dire de corps ou de cache, hein, tout simplement, ça peut être une cache d'armes. Une des utilisations, effectivement, c'est la découverte des charniers aussi sur les pays qui sont peut-être en guerre même actuellement. Ça peut être aussi en guerre depuis un certain temps où la guerre est finie, on essaye de retrouver des choses. Je sais par exemple que des Allemands, il n'y a pas longtemps, ont lancé des radars dans certaines forêts de l'est de la France pour retrouver effectivement plusieurs tombes de soldats qui auraient été exécutés.
Grâce à cet outil, on peut savoir si j'observe une masse vide ou en tout cas moins dense que le reste. On peut savoir si c'est un charnier ou si c'est, j'en sais rien, une poche d'eau par exemple. On peut faire la différence ?
Alors non, malheureusement, on va être beaucoup plus calme sur l'interprétation. Les géophysiciens parlent souvent en termes d'anomalie, un peu comme un radiologue. On voit une zone qui est un peu anomalique, c'est-à-dire qui est différente de son environnement, et on dit là, il existe quelque chose. Et il est assez rare qu'on puisse dire exactement ce qu'il y a à cet endroit-là. Si, on va dire, l'anomalie a une forme géométrique bien définie à ce moment-là, on va commencer à avoir un indice, hein, si ça a une forme parallépipédique de 2 mètres sur 40 cm. Voilà, on va pouvoir dire ça c'est une tombe et c'est une des grosses applications effectivement du radar, surtout aux États-Unis, hein, pour la recherche des tombes, ou au Canada effectivement dans le cadre des pensionnats de tous ces enfants qui ont visiblement été enterrés un peu à latte dans ces pensionnats. Et c'est une recherche actuelle très très développée. Voilà, donc on peut essayer de détecter ça, mais on ne pourra pas dire, ça il faut être très très honnête là-dessus, il y a un corps qui fait 1m50 ou 1m90, ça c'est extrêmement dur à voir.
Et concernant les possibles applications qu'on pourrait avoir, est-ce qu'il y a encore des applications auxquelles pour vous on n'a pas pensé, ou sinon que des améliorations rendront possibles ?
Quelles pourraient être des autres applications ? Il y en a certainement. Voilà, mon secteur est l'archéologie. Je sais que certains ont commencé à vouloir l'utiliser dans le domaine de l'agriculture pour détecter, par exemple, la teneur en humidité du sol. Il y a des recherches là-dessus. Donc oui, il y a effectivement certainement des secteurs émergents.
Merci Loïc Dutoit. Des reportages loin du studio pour se frotter à la science telle qu'elle se fabrique au quotidien, c'est notre collection La Science au Labo, en podcast sur l'appli Radio France bien sûr. Richard Marlet, ce sont des outils que vous utilisez, hein, vous avez déjà utilisé des géoradars.
Oui, c'est l'outil qu'on utilise systématiquement en archéologie forensique. Mmh. En fait, encore un nouveau terme. c'est typiquement l'outil qu'on veut utiliser, notamment pour essayer de retrouver des corps qui auraient pu être enterrés. Donc, on l'a beaucoup utilisé dans les affaires Fourniret. Bon. Et en fait, c'est... Il y a l'utilisation de l'outil et l'utilisation en fait des méthodes de l'archéologie aussi. C'est-à-dire qu'en fait, dès lors qu'on suspecte une anomalie quelque part, on va utiliser pas n'importe quel type de godet pour creuser. Donc, ce sont vraiment des. Puis en termes de délimitation, je veux dire, on va circonscrire l'endroit comme on fait sur une scène de crime avec ces rubalises jaunes et puis travailler endroit par endroit. Et en fait, voilà, l'archéologie forensique, c'est une des branches aussi des sciences forensiques.
Mais c'est utilisé aussi en génie civil. Parce que, par exemple, ils font les mesures avec... ça a été dit comme un petit... Nous, on appelait ça justement une tondeuse à gazon. Et ils ont utilisé ça sur des aéroports dans le centre-est de la France, du côté de Reims. Parce que là, il y avait eu des tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Et ils voulaient installer des choses un peu sensibles. Et ils voulaient savoir s'il restait encore des obus. Et donc, ils ont cartographié tout cet ensemble-là. Et ils ont retrouvé des alignements... qui étaient des d'anciennes tranchées avec ici et là des traces d'obus. Ailleurs, ils ont trouvé quelque chose de beaucoup plus fort. Ils ont vu que c'était des câbles électriques qui passaient, etc. Donc, vous voyez, toutes les sciences servent à toutes les enquêtes.
Là, on entendait dans ce reportage parler de des tombes de soldats exécutés. Ça vous a fait penser à un autre exemple, Patrick de Wever. Un autre exemple resté non classé, celui du massacre à Tulle du 9 juin 1944.
Oui. Les maquisards avaient attaqué les Allemands dans Tulle. Et les maquisards avaient fait des prisonniers, enfin, ils étaient presque gagnants, mais ils ont entendu que la Das Reich remontait. Et là, ils pouvaient pas faire face à Das Reich, donc ils se sont retirés avec un certain nombre de prisonniers, 30 ou 40 prisonniers à peu près. Et ils se sont enfuis dans les bois, et après, Das Reich remontait vraiment vite, donc il fallait qu'ils se sauvent assez rapidement, et en plus, c'était un problème d'approvisionnement qu'ils n'avaient pas. Et donc, ils les avaient tués et enterrés sur place. Ça a été gardé sous silence pendant très longtemps. Ça, c'était juste avant le roi d'Ursulane, c'était exactement entre les deux. Et il y a 2-3 ans, je ne sais plus bien, c'est un vieux monsieur qui avait vécu ça, il a dit « je ne veux pas mourir sans le dire ». Parce que déjà, il avait plusieurs fois essayé de le dire, mais là, il a dit « je vais le dire ». Parce que au roi d'Ursulane, c'est pas bien, mais ce qu'on a fait, c'est pas bien non plus. Et ils ont cherché à essayer de retrouver où c'était, mais la forêt a évolué, etc. Et pour essayer de retrouver les tombes, justement, ils sont venus avec des géoradars, et ils ont passé je peux pas dire au peigne fin, mais ils ont essayé de scanner toute la zone. Mais, ben voilà, les mêmes outils, là, ça n'a pas donné. Ils ne savent pas, ils n'ont pas trouvé grand-chose.
Géoradar et Lidar n'ont découvert aucun corps. Alors, quelles autres disciplines, quelles sont toutes ces disciplines des sciences forensiques que la géologie, avec qui la géologie travaille main dans la main? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Trioux.
En direct sur France Culture avec Patrick de Wever et Richard Marlet, nous parlons des sciences forensiques, cet ensemble de disciplines auxquelles on peut faire affaire à l'occasion d'un procès. Et il y a donc la géoforensique. Alors dans les géosciences, on peut utiliser la spectroscopie, Patrick de Wever, et notamment il y a ce cas, alors ça c'est pas de la criminalistique, mais on a le cas du diamant bleu de Louis XIV, qui est une histoire que je trouve tout à fait savoureuse.
Alors oui, alors là, on peut pas le parler en détail parce que c'est une affaire qui est très 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 longue. Mais la fin, c'est quand même qu'on a retrouvé un plomb au muséum dans lors de nettoyage, de classement, etc. Et le professeur responsable a dit ce plomb me dit quelque chose. Et après, il s'est dit mais ça c'est le plomb du diamant bleu. Et c'était un plomb qui était gros comme une souris à peu près. Hein.
Souris d'ordinateur.
Donc, un diamant qui était une souris d'ordinateur, pardon. Donc c'était un diamant important. Et c'est un diamant qui avait fait partie du sac de pavillon de la marine au moment de la Révolution française. Ils avaient retrouvé beaucoup de bijoux. Hein, c'était les bijoux de la couronne. Ils ont retrouvé beaucoup de bijoux, mais pas tout. Et ils ont retrouvé un diamant qui s'appelait le Hope. Enfin, que nous appelons maintenant le Hope, en Angleterre 20 ans après. Mais 20 ans, c'est pas un hasard, parce que au niveau législatif, c'était une période de l'équivalent de prescription, je sais pas quoi. Et ce diamant est allé de l'un à l'autre, mais à chaque fois, il semblait porter malheur, parce qu'il y avait des morts, il y avait des meurtres, il y avait des faillites, donc ils ont cherché à s'en débarrasser. Et finalement, c'est un banquier qui l'avait, Monsieur Hope, qui a voulu s'en débarrasser, et il l'a offert au Smithsonian. À New York, et quand au muséum, il y a quelques années, on avait fait une exposition sur Diamant, qui s'appelait Diamant, ils devaient nous le prêter, et c'est eux qui nous ont dit « Non, nous ne pouvons pas vous le prêter, parce que si on vous le prête, vous n'avez pas le droit de nous le rendre. Parce que maintenant, on sait qu'il vient de chez vous. » Parce que là, en fait, pour retrouver ce diamant, ce professeur qui avait fait cette hypothèse, voilà, il a fait cette hypothèse, c'est le même. Mais donc, ils ont dû reconstituer, retrouver les structures. Il est retourné sur le terrain, dans les pays en stand, quelque chose dans le nord de l'Inde, pour essayer de retrouver si dans le coin, si c'est la même composition, vous voyez. C'est de la minéralogie, mais dedans, il y a aussi des éléments traces. Donc, ils voulaient savoir si c'était les mêmes éléments traces pour bien identifier la région.
Voilà comment le diamant bleu de Louis XIV et le Hope se sont avérés être le même objet. Ça, c'est grâce à la spectroscopie. Richard Marley, quels sont... On a des exemples aussi de cas non résolus du fait qu'on ne croise peut-être pas encore assez suffisamment les disciplines scientifiques ensemble.
C'est toute la difficulté. Avec l'apparition de l'ADN, en fait, il n'y avait plus que de l'ADN. À un tel point, d'ailleurs, que toutes les autres traces ont été négligées. L'ADN, c'était moderne. Les empreintes digitales, c'était ringard. Les traces de souliers, c'était ringard aussi. Donc, on a négligé tout ça. Et puis, la France est un pays curieux, en fait. Donc, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ADN. Sauf que les laboratoires n'étaient pas dimensionnés pour tout traiter. Donc il a fallu revenir en arrière, et évidemment la solution, c'est l'exploitation de toutes les traces. C'est ce que vous évoquiez en fait. Maintenant on parle de traceologie. Et en fait il y a des traces, moi qui m'intéressent beaucoup, sont toutes les traces numériques. Parce qu'elles ont un gros avantage par rapport aux traces digitales, aux traces génétiques, c'est que les traces numériques, on peut les dater à la microseconde. Voilà, vous passez un coup de téléphone, vous êtes pris par une caméra de vidéosurveillance, tout ça est daté à la microseconde. C'est un gros avantage.
Pour finir, Richard Malley, je pense à dans le cadre de votre carrière, la première vraie scène de crime à laquelle vous avez été confronté.
Ah, c'est terrible. En fait, je suis sorti de l'école... c'est terrible parce que c'est vieux, en fait. C'était en septembre 84 et j'étais commissaire de quartier sur le 18e arrondissement au quartier Clignancourt. Et nous avons été appelés parce que les pompiers, en intervenant sur un incendie, venaient de découvrir le corps d'une vieille dame qui avait été étouffée et strangulée. Elle s'appelait Suzanne Foucault, elle avait 83 ans, elle habitait 10 rue Nicolet. Et c'était la première victime de Thierry Paulin, celui qu'on n'allait pas tarder à appeler le tueur des vieilles dames.
Allez, un fichier automatisé de ces empreintes digitales qui n'existait pas encore a permis de découvrir en effet cet assassin. Dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbaume, mais merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. J'invite nos auditeurs à se tourner vers votre ouvrage pour prolonger le plaisir de ce podcast, votre ouvrage « La géologie au service de l'enquête » qui est paru chez Belin. Tout de suite, on change complètement de sujet. Les petites filles sont douées en mathématiques, mais ce sont les pratiques scolaires qui amplifient les biais de genre en faveur des garçons. C'est la chronique avec science.
Comment se crée le fossé entre filles et garçons en mathématiques? Tout part d'un constat. Alors que les filles sont globalement meilleures dans toutes les disciplines, en mathématiques, un écart se creuse en faveur des garçons. Cela se voit dans toutes les tranches d'âge, partout dans le monde, mais cela varie selon les pays et dans le temps. En France, selon les études PISA menées dans l'OCDE, l'écart se creuse encore plus ces dernières années. Mais pourquoi? Pourquoi les filles ont-elles de moins bons résultats scolaires en maths que les garçons? Il y a plusieurs pistes d'explication, souvent mêlée avec des idées reçues. Pauline Martineau est médecin et chercheuse en neurosciences au centre Neurospin à Saclay.
Il y a toujours toute une partie des personnes qui disent que biologiquement, les femmes sont moins bonnes que les hommes en mathématiques et en sciences. Donc ça reste encore, on en voit dans la société. Il y a plusieurs papiers qui observent les comportements des petites filles par rapport aux petits garçons et du coup remarquent qu'après quelques années, des petites filles auraient une moindre capacité à comprendre les objets en trois dimensions dans l'espace. Et en fait, il y a plein d'autres papiers qui contredisent ces recherches en montrant totalement l'inverse, que les petits garçons et les petites filles naissent avec le même socle de compétences en mathématiques, en sens du nombre, en compréhension de la géométrie et de l'espace. Une autre hypothèse très forte, c'est que on a des stéréotypes de genre qui font pression sur les petites filles et qui encouragent les garçons, qui s'accumulent lentement dans le temps et qui se manifestent progressivement, du coup, qui sont très difficiles à combattre. Et une troisième hypothèse qui est assez forte aussi, c'était que les filles auraient une préférence pour le langage et du coup délaisseraient les maths.
Mais où, quand et comment se creuse ce fossé? Et est-ce que les réponses à ces questions pourraient nous permettre de comprendre son origine? C'est ce qu'a voulu faire cette nouvelle étude parue dans Nature. Pour cela, les scientifiques se sont servis d'un grand jeu de données, le plus grand dont on dispose à l'heure actuelle dans le monde. Ce sont les nouvelles évaluations mises en place par l'Éducation nationale depuis 2018 en CP et en CE1. Il s'agit de 46 tests cognitifs en langage et en mathématiques. L'avantage de cette étude par rapport au précédent, c'est qu'elle touche tout le monde, école privée, école publique, REP+, tous les types de pédagogie et toutes les classes sociales. En 4 ans, presque 3 millions d'enfants ont passé ces tests à 3 moments différents, au tout début du CP, 4 mois après et au début de la classe de CE1. Et le résultat est frappant, seulement 4 mois après le début de l'école primaire, le niveau des filles chute en mathématiques et l'écart s'installe.
À l'entrée en CP, donc ils ont été exposés à 10 jours, 2 semaines d'école. Les petits garçons et les petites filles ont exactement les mêmes compétences dans tous les exercices en mathématiques. Donc on a fait une gradation par niveau socio-économique, par type d'école, etc. Et on voit que les petits garçons et les petites filles ont les mêmes compétences sur tous les exercices en mathématiques, excepté dans les milieux les plus favorisés, il y a une légère avance pour les petits garçons. On est en tout début de CP. Les enfants ont 6 ans et donc ils ont les mêmes compétences en mathématiques entre les petits garçons et les petites filles. Après seulement 4 mois d'école, les résultats sont vraiment très marqués en faveur des petits garçons dans tous les domaines en mathématiques. Et ensuite, un an après, lorsqu'ils sont en début de CE1, les écarts sont vraiment largement en faveur des petits garçons par rapport aux petites filles qui chutent en niveau. On entendait que les hypothèses principales étaient qu'il y avait une accumulation lente de stéréotypes de genre dans le temps. Donc je ne m'attendais pas à ce que ça se manifeste aussi rapidement. D'autant plus qu'en étant neuroscientifique, on sait très bien, on a fait la revue de la littérature. Et donc il n'y avait aucune raison valable pour se dire qu'ils sont égaux en tout début de CP, et puis dans quelques semaines, que ces écarts se manifestent de manière aussi marquée.
Aucune raison biologique valable, mais plusieurs hypothèses. Raison numéro 1, l'intériorisation du fait que les filles sont mauvaises en maths. Ce stéréotype de genre se manifeste même chez les institutrices, et quand on mesure chez elles une anxiété vis-à-vis des mathématiques, elle se retrouve chez les petites filles. Alors l'enjeu n'est pas de blâmer les enseignantes, les enfants entre eux véhiculent aussi ces stéréotypes, mais ce que révèle l'étude, c'est que pendant l'année Covid, où il y a eu beaucoup plus d'écoles à la maison, les filles n'ont jamais eu d'aussi bons résultats en mathématiques. Ce qui change donc en CP et en classe, c'est que cet effet se révèle. En primaire, la façon d'enseigner les mathématiques change pour devenir beaucoup plus formelle, ce qui implique de faire des erreurs pour réussir. Or, tous les tests nouveaux qui demandent de se tromper et qui présentent une forme de compétition sont ceux où excellent les garçons. Tout se mélange finalement et cette étude pointe le rôle des pratiques scolaires dans l'amplification des biais de genre. Pour lutter contre cela, il y a 4 cibles à atteindre: les enfants, les adultes en général, les adultes dans l'enseignement et les politiques publiques, avec un message clair à retenir, à diffuser et à marteler, les filles sont aussi fortes que les garçons en mathématiques.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Noémie Maguet de Saint-Vulfran, Lou Anger, Antoine Beauchamp, Loïc Dutoit, Alexandre Morales. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Timothée Hubert. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.